Entretien de Paul de Brancion avec des écrivains de poésie.
Vous écoutez Allegre FM 93.1.
Je reçois aujourd'hui une émission particulière autour des métiers d'art et autour de la typographie d'art et la reliure, Christian Locou et Catherine Chauvel. Donc bonjour à tous les deux.
Bonjour.
Ça va être un chute libre un peu différent de l'habitude, puisque d'habitude je reçois un poète ou un écrivain et on lit des textes. Là, comme on n'a pas de texte à lire en tant que tel, mais ce qui est à lire, c'est comprendre ce qu'est le métier de typographe, le métier de relieur ou de relieuse. Et donc, on va surtout échanger. Donc, Christian Locou, vous êtes un ancien élève et un ancien professeur de typographie de l'école Estienne.
Oui, vous êtes
un typographe au plomb.
Oui.
Vous êtes un descendant direct de Gutenberg.
Plutôt indirect, mais même si j'ai peut-être quelques ancêtres allemands, mais très indirect quand même.
Catherine Chauvel, vous êtes relieuse ou relieur ?
Relieur. Relieuse, c'est une machine, donc j'ai l'habitude de garder.
Relieur, et ça s'écrit E-U-R-E ou E-U-R ?
Alors, on peut rajouter un E si on veut féminiser, mais c'est chantant, c'est.
Ah, c'est très joli.
Relieur, oui. Ça.
Et vous avez, je crois, aussi enseigné à l'école Estienne ?
Non.
Vous êtes meilleur ouvrier de France, si j'ai bien compris.
Oui, depuis 2007.
Ou meilleure ouvrière de France ?
Non, dit meilleur ouvrier de France.
N'empêche que c'est quelque chose. Comment est-ce qu'on devient le meilleur ouvrier de France?
Alors, on est tout à fait passionné par son métier. On le pratique intensément, avec beaucoup de conscience. On a d'abord sagement appris les fondamentaux, avec, si possible, de bons professeurs, enfin, de bons enseignants artisans. Et puis, on a beaucoup pratiqué, beaucoup.
Et vous êtes né dans la reliure ou vous avez fait autre chose avant ?
Pas du tout. J'ai commencé la reliure à 28 ans.
Ah, d'accord.
Donc, j'ai un peu tâtonné avant. J'ai commencé par du droit, puis j'ai pas continué. Puis j'ai travaillé pendant quelques années. Et puis, j'ai décidé de faire quelque chose qui me plaît avec mes mains. En aimant le livre, je suis allée aussi assez facilement vers la reliure.
Est-ce que vous avez relié le Code civil ?
Non.
Jamais ?
Non. Non, enfin, j'ai travaillé pour quelques avocats par intermittence, puis sans... Non, pas... voilà, ça ne fait pas partie des... des ouvrages que j'ai... qu'on m'a confié en particulier.
Oui, parce que les avocats, ils ont beaucoup de bulletins qu'ils doivent relier, mettre ensemble pour ne pas pouvoir les retrouver.
Oui,
pouvoir les retrouver,
absolument.
Alors, les jurisprudences,
oui,
etc.
Alors maintenant, avec le numérique, il y a beaucoup moins de réserves papier. Mais de toute façon, ça ne fait pas partie de ma clientèle
habituelle.
Habituelle, non. Non.
Alors, après, on va revenir à la reliure. Christian Locou, vous êtes aussi tombé dedans dans la typographie au plomb très jeune, ou est-ce que c'est quelque chose qui vous a...
Alors, je suis tombé dans le livre très jeune, oui. Puisque avant même d'apprendre à lire, mes parents m'avaient offert des livres et que je les lisais. Je en tournais les pages et j'avais fini par les apprendre par cœur. Et je tournais les pages au bon endroit, au bon moment. Alors que, ça c'était avant mes 7 ans, oui.
Vous êtes devenu typographe à 8 ans ?
Non. À l'âge de 12 ans, je me suis tourné plutôt vers l'électronique, mais c'était une époque où l'électronique était représentée par des tubes en verre. C'était l'électronique des grands-pères. J'ai pratiqué ça jusqu'à l'âge de 16 ans. J'ai même été radio-amateur. Et puis, j'ai eu des études tout à fait classiques. pas classique, ce qu'on appelait moderne, à savoir orienté en direction des sciences. J'ai passé un bac scientifique, j'ai fait 2 années, dont une pas terminée, en maths et en physique. Je ne me voyais pas du tout dans la peau d'un professeur de maths ni dans la peau d'un prof de physique. Et une des personnes de ma famille, une de mes tantes, m'a dit « Mais Christian, puisque tu aimes tant les livres que ça, pourquoi n'apprendrais-tu pas à en faire ?» Et c'est elle qui m'a orienté en direction d'une école qui s'appelle l'école Estienne, dans laquelle j'ai fini par rentrer. J'y ai passé probablement 3 de mes meilleures années. Moi, à cette époque-là, il n'y avait pas, toutes les sections possibles qui existent maintenant à l'école Estienne. Il n'y avait que 2 sections post-bac. Il y avait ceux qui s'intéressaient à l'industrie du livre et ceux qui s'intéressaient à la conception du livre. Alors, j'étais rentré en industrie parce que j'avais eu la stupidité de ne pas proposer de dossier artistique. Et puis, je me suis rendu compte que les cours étaient notablement insuffisants pour
moi. Mais
alors,
l'école Estienne, plus précisément, c'est une école qui est une sorte de conservatoire des savoir-faire anciens ou pas du tout ?
Cela le fut. Cela ne l'est plus.
Et aujourd'hui, c'est quoi alors ?
Aujourd'hui, c'est une école d'art où on enseigne plus la théorie que la pratique.
D'accord. Oui. Voilà. Et du temps, parce que donc vous avez fait l'école Estienne comme élève ?
Comme élève, ensuite, j'en suis sorti majeur de ma promotion, mais je vous garantis que je ne l'ai pas fait exprès.
D'accord. Et après, vous avez été enseignant à l'école Estienne ?
Non. Après, il s'est passé beaucoup de temps. J'ai quitté l'école Estienne en 1975 et j'y suis revenu en 2004 de l'autre côté de la barrière en tant que prof.
Voilà. Et vous enseignez la typographie ou la radio ?
Oui.
Non,
la typoplomb, oui. Ah, bon.
Et alors, là, on va rentrer dans le vif de la typoplomb. Qu'est-ce que c'est que la typoplomb ? Voilà.
En Occident, on apprenait ça dans les petites classes. C'est la technique qui est censée avoir été inventée par Gutenberg en Allemagne, aux alentours du milieu du XVe siècle. Il se trouve que les Chinois avaient quelque peu inventé ça avant, mais Gutenberg ne le savait probablement pas. Et donc lui, ce qu'il a mis au point, c'est une technique qui permettait, à partir de la gravure dans du métal, d'une gravure unique, la gravure d'une lettre, de pouvoir la multiplier à volonté. C'est-à-dire à partir d'une gravure unique, par fonderie, on pouvait obtenir autant de lettres possibles que l'on souhaitait.
Les lettres en question, il faut les fondre, les fabriquer.
Oui,
et
c'est ça.
Il y a une machine pour les fabriquer ?
Il y avait des machines extrêmement simples. Maintenant, pour nous, hommes du 21e siècle, une machine, c'est un objet extrêmement complexe. Au 15e siècle, la machine pour fondre les caractères, on appelait ça un moule à harçon. C'est tout simplement un moule en 2 parties. Dans le fond de ce moule, on mettait ce qu'on appelle une matrice, c'est-à-dire une empreinte en creux de la gravure de la lettre en relief que l'on avait. Donc, on prend la gravure en relief qui est exécutée dans de l'acier. Dans un barreau de cuivre, on en obtient une empreinte en creux, et cette empreinte en creux sert de moule, de fond de moule, pour fondre autant de caractères qu'on le souhaite dans un alliage qui n'est pas que qui est constitué avec une grande partie de plomb, mais pas que du plomb. Il y a aussi de l'antimoine et de l'étain.
Et alors le plomb, il paraît que c'est un peu dangereux, bon, c'est donc un métier dangereux.
Alors ça, c'est dangereux probablement pour les hommes politiques, ou pour les truands qui se prennent du plomb. Mais pour un typographe qui manipule des caractères en plomb, s'il a le bon goût d'avoir un peu d'hygiène et s'il se lave les mains, s'il ne met pas de caractères dans sa bouche, cela ne présente strictement aucun danger.
Mais alors, les caractères, c'est vous qui les fabriquez ?
Alors, les caractères, non. Il faut savoir que au début, à l'époque de Gutenberg et dans les siècles qui ont suivi, les caractères étaient fabriqués dans les ateliers d'imprimerie, puisque les métiers n'étaient pas totalement séparés. Et donc, on utilisait les compétences d'un graveur qui travaillait pour l'atelier pour créer ce qu'on appelle maintenant une police de caractères. Donc un type de caractère, on fondait les caractères sur place et on les utilisait. Petit à petit, au fil des siècles, les métiers se sont séparés. Le 19e siècle a mécanisé effectivement toutes les techniques de l'époque. Et la typographie n'y a pas fait exception. Donc, la typographie s'est aussi mécanisée et on a commencé par inventer des machines qui permettaient, plus ou moins mécaniquement, de remplacer le fondeur de caractère avec son petit moule à main qui, avec une toute petite quantité de plomb en fusion, fabriquait les caractères les uns après les autres.
C'est ça qu'on appelle les linotypeuses.
Ça, il faudra attendre la fin du 19e siècle pour voir apparaître les machines qui sont des fondeuses et composeuses. C'est-à-dire, c'est en gros des machines qui ont un clavier, comme maintenant les ordurateurs, vous savez, les espèces de trucs avec un écran et puis un clavier, là. On avait une machine avec un clavier. À la seule différence du clavier dont j'ai parlé, c'est qu'il y a une touche pour le A majuscule, une touche pour le A minuscule, etc.
Et vous, n'utilisez pas ces machines-là, c'est des
linotypies? Non, moi je ne pratique pas la linotypie comme à la Saïg
Monsieur
Huin, dont nous avons parlé avant que cette émission ne commence. J'utilise encore des petits caractères que je compose à la main dans un outil qui s'appelle un composteur et qui sert à créer les lignes.
Vous écoutez Allegre FM 93.1.
Bien, je reçois sur Chute Libre Christian Lecou et Catherine Chauvel, qui sont pour l'un et l'autre intéressés au livre, se penchent sur la vie du livre, le constituent, le fabriquent. L'un est typographe au plomb et l'autre relieur. Donc on va continuer notre échange sur ce beau, sur ces beaux métiers du livre. On a parlé un peu de la façon dont on fabrique les lettres au plomb. Mm-hmm. Et Christian Lecou, vous expliquait que vous faisiez vous-même vos caractères. Et alors, quelle est la différence entre une police de caractère et une fonte?
Le vocabulaire typographique a changé depuis que la typographie s'est en gros dématérialisée. Une police de caractère au XVIIIe siècle, c'était l'ensemble de toutes les lettres commandées par un imprimeur à un fondeur. Et qui était un ensemble de lettres, de lettres, de signes, de chiffres, qui étaient en proportion les uns entre les autres, en fonction de leur fréquence d'utilisation dans la langue en question, bon, là en l'occurrence le français. Donc il suffisait qu'un imprimeur demande à un fondeur, faites-moi de tel caractère, dans telle grosseur, une fonte de 10 000 A. Alors 10 000 A, c'est 10 000 A minuscules. Oui. Et le fondeur savait que s'il devait fondre 10 000 A, il devrait fondre 5 000 B, il devrait fondre 25 000 E, etc. Puisque tout était en proportion, en fonction de la fréquence d'utilisation des caractères. Et c'est ça qu'on appelait une police de caractères.
D'accord.
Voilà. Et donc,
c'est déjà de la statistique.
C'était un ensemble de caractères, donc un certain poids de caractères qui était commandé par un imprimeur à un fondeur.
Mais on ne fait pas 3000 W ou Z, on en fait moins.
En anglais, si. le W et le Y sont pas mal utilisés. Le K aussi est beaucoup plus utilisé qu'en France. Les deux lettres les moins utilisées en français sont le K et le W, effectivement. Et dans le tiroir qui sert à conserver les caractères pour la composition, un tiroir qu'on appelle une casse, les castins, les petits compartiments les plus petits sont réservés bien évidemment aux lettres les moins fréquentes, et le K et le W font partie des castins les plus petits, ce qui fait que quand avec une casse française on doit composer un texte anglais, on est embêté parce que on n'a jamais assez de W ni de K.
On téléphone à un copain, tu peux pas me prêter
On téléphone à Michael Ken éventuellement, est britannique mais qui travaille avec des casses françaises depuis le temps qu'il est imprimeur à Paris.
C'est émouvant ce rapport matériel à la lettre.
Oui, bien sûr. J'ai assisté un petit reportage sur un typographe suisse. Deux typographes suisses qui travaillaient avec un poète, poète suisse lui-même, et le poète donnait ses textes aux typographes, et les typographes lui disaient « Ah ben non, mais là on ne peut pas composer ce texte-là parce qu'il va nous manquer telle lettre ou telle lettre ». Et donc le poète avait dit « Bon, ben c'est pas au typographe de s'arranger ». Il a dit « Ben non, ben écoute, je vais changer mon texte pour que ça colle, pour que ça colle à votre matériel ». C'est rare quand ça arrive, mais quand ça arrive, ça fait plaisir.
Imaginez qu'on ait dit ça à Dante. Allez, oui, bon, très bien, la Divine Comédie, je réécris.
Si ça se trouve, c'est ce qu'il a fait.
Si ça se trouve, oui. D'où l'enfer.
Voilà.
Catherine Chauvel, alors, le relieur, il passe après le typographe, évidemment, parce que le typographe, il fait les livres et après il vous donne des papiers assemblés et dans un certain ordre, vous les reliez. Comment ça
alors,
se marche, cette histoire-là?
Le relieur n'est pas forcément dans la chaîne de fabrication du livre. Dans le métier de relieur, il y a différentes catégories. Il y a les relieurs industriels, les relieurs qui sont qui travaillent à l'unité, on va dire, quand le livre est sorti de sa chaîne de fabrication et de distribution. Il y a les restaurateurs, ceux qui réparent les livres anciens très abîmés. Et à l'intérieur de ça, vous avez une très grande diversité de commandes possibles entre des livres très modestes ou des livres prestigieux. Mais le relieur, il n'est pas forcément en bout de chaîne. Par exemple, quand il y a des cartonnages d'éditeurs, le typographe compose, met en page, organise le texte dans le livre. L'éditeur, lui, a choisi un texte, un illustrateur éventuellement. Le typographe a réalisé l'impression. Le brocheur a uni les cahiers, rassemblé les cahiers. Et puis tout ça est passé sur le marché. Lui, le relieur, comme ce que je fais moi, reçoit un livre qui était acheté par une personne, et un puis lecteur. Ce lecteur vient m'apporter son livre.
J'ai vu dans vos ateliers de reliure que vous avez la reliure courante, la reliure soignée, la reliure de création, et le livre d'art, ou quelque chose.
Oui,
quelque chose comme
oui,
ça.
Oui, oui. C'est-à-dire que, en fait, le relieur se plie aussi au type de livre qui lui est présenté. Moi, je peux travailler sur un livre de cuisine, sur un livre technique, sur un livre de voyage, sur un album photo, sur un roman qui est à tirage limité, ou un livre qui a été volontairement fait dans un beau papier, qu'on appelle les têtes de tirage dans une édition. Mm-hmm. Et puis il y a les éditions courantes. Donc je peux être confrontée à tout ça. Évidemment, la reliure, elle s'adapte au type de livre que l'on a. C'est sur un livre de cuisine. L'important, c'est l'harmonie entre la couverture, la reliure et son contenu.
Mais dans chaque livre est unique pour le
relieur. Absolument. Voilà, oui, oui.
Alors
oui,
que
oui.
Pour le typographe, le livre reproduit.
Il est.
Je te coupe la parole. Non, mais le but même d'un imprimeur en général, c'est de multiplier une parole écrite. Donc effectivement, le typographe ou celui qui représente, disons, le fabricant du livre est là pour créer des multiples, qu'il soit artiste et qu'il ne maîtrise pas les techniques à proprement parler d'imprimerie. Ou qu'il soit comme moi, disons, une espèce d'homme à tout faire de la typographie, puisque je m'amusais à dire il n'y a pas si longtemps que ça que j'ai à peu de choses près pratiqué tous les métiers liés au livre, à l'exception de celui de madame. J'ai fait du cartonnage, et sinon je n'ai jamais été ni bibliothécaire ni libraire d'anciens. J'ai eu la grande chance d'être ni libraire de neuf. J'ai eu la grande chance d'être libraire d'anciens pendant 2 mois. Un ami libraire qui m'avait passé les clés de sa librairie en lui disant: tu vends tout ce que tu veux, mais t'achètes rien.
Mais alors, Christian Lecoux, vous avez travaillé, je suppose, puisque vous êtes éditeur aussi, vous travaillez avec des écrivains ou des artistes pour faire vos livres.
Ça m'arrive, oui, de travailler avec des écrivains. Alors,
c'est eux qui vous choisissent ou c'est vous qui les choisissez?
C'est plutôt moi qui choisis, et puis de temps en temps, c'est un hasard absolu. Il se trouve que un monsieur que je ne connaissais absolument pas est passé me voir en me disant, c'était il y a maintenant un peu un peu moins de 2 ans. Je suis journaliste à Télérama. Est-ce que vous êtes bien Christian Lecoux, typographe au plomb? J'ai dit oui. Est-ce que je peux faire un tout petit papier sur vous dans ma revue? Je dis oui. Le papier passe. Quelque temps après, cet homme vient me voir dans mon atelier, me dépose un petit dossier dans lequel il y avait un petit texte. Et c'était simplement parce qu'on avait sympathisé. Ce petit texte, c'était une nouvelle qu'il avait écrite. Et il ne cherchait pas du tout à se faire publier. Il voulait simplement me l'apporter pour que je le lise et puis que je lui dise ce que j'en pensais. J'ai lu bien évidemment sa nouvelle, elle m'a plu. À cette époque-là, j'avais une petite stagiaire. Je l'ai fait lire à ma petite stagiaire, ça lui a plu. Je l'ai fait lire à Catherine Chauvel, ici présente, ça lui a plu. On était 3 à trouver que c'était bien. J'ai téléphoné au monsieur en lui disant « Mais ce texte, il est libre ou il est déjà publié ?» Il dit « Bah non, je vous l'ai apporté simplement pour que vous le lisiez. » Je lui dis « Bah alors donc je peux le publier ?» j'y pensais pas, m'a-t-il répondu, et voilà, ça a donné naissance à l'un de mes derniers livres qui s'appelle Molitor. C'est un livre qui se passe dans le milieu des restaurants, plutôt des bouillons parisiens. Et le livre, je l'ai imprimé sur de la nappe de restaurant.
Voilà. Et à combien d'exemplaires alors?
Une centaine d'exemplaires composés à la main avec une petite linogravure.
Après, tout à l'heure, vous allez nous parler du destin des livres au plomb, c'est-à-dire qu'il est fait, il y en a une centaine. Comment vous faites pour leur trouver des lecteurs à ces livres?
Ça, c'est le point le plus difficile à aborder. Il fut un moment où... un certain nombre de libraires me faisaient confiance et me prenaient mes livres. Et la plupart de ces libraires ont fini par cesser leurs activités, soit parce qu'ils avaient quitté le dessus pour le dessous de la terre, soit parce qu'ils avaient pris leur retraite, soit parce qu'ils avaient déposé le bilan. Et je me retrouve maintenant à faire des livres quasiment sans lectorat ou simplement je fais des manifestations plus ou moins privées pour présenter mes derniers ouvrages.
Et vous, les auteurs viennent vous voir et lisent dans ces manifestations. Quel type de manifestation vous faites?
Là, pour la sortie de Molitor, par exemple, on a fait une sortie. Alors, l'auteur s'appelle Pierre Pinelli, et on a fait une sortie dans un bistrot du 14e arrondissement. Et il y a une comédienne qui est venue et qui a lu le texte de Molitor. Et bien évidemment, il y avait quelques exemplaires à vendre. Voilà, on avait fait un petit battage autour et on a eu pas mal de publics.
Vous êtes reparti avec les nappes du restaurant pour
faire
un autre livre.
Mais et le carton d'invitation a été imprimé sur de la nappe de restaurant.
Aligre FM 93.1.
much too fast. But give it rain of waiting time, and it will surely pass. And it will surely pass.
Alors, je reçois Christian Lecou et Catherine Chauvel, respectivement typographe au plomb et relieur. Donc, on continue notre conversation sur ces métiers d'art et d'artisanat que sont les vôtres, qui sont des métiers qui vivent toujours, mais vous n'êtes pas si nombreux que ça, je crois, à faire ces métiers.
Alors, les relieurs, si. Je laisse ma madame en parler. Les typographes au plomb commencent à se raréfier assez copieusement. Dans Paris Intramuros, je dis bien Intramuros, on n'est plus que deux typographes. Bon, avoir été formé à peu près correctement, c'est Michael Caine qui aurait pu être là ce soir.
Oui, on voulait le voir, mais il n'a pas pu malheureusement.
Et moi. Alors sinon, il y a des jeunes qui achètent du matériel, mais qui n'ayant pas une véritable formation...
Ont de la peine, oui.
Soit ont de la peine, soit produisent des objets qui... Disons... qui me font froncer les sourcils, pour être très poli. Voilà.
Mais alors, quel est l'avenir de ce métier ? C'est-à-dire, comment transmettre ce savoir-faire alors, complexe et précis ?
Il faut attendre... il ne faut pas attendre que les personnes comme Catherine ou comme moi soient passées de vie à trépas pour se poser la question. Oui. Il faut profiter du fait qu'il y a encore des professionnels qui possèdent parfaitement leur métier pour non pas les obliger à transmettre, mais leur conseiller de transmettre à des personnes de la génération d'après
alors,
pour que ces métiers ne disparaissent pas complètement.
Un métier dit et qui continue dit aussi une économie, c'est-à-dire faut arriver à pourquoi quelqu'un qui est passionné de typographie, de plomb et de reliure éventuellement aussi. Il va bien se lancer dedans s'il aime beaucoup, mais il faut qu'il mange.
Oui.
Donc qu'il vende suffisamment de livres ou d'ouvrages pour pouvoir arriver à vivre. Quelle est l'économie de cette activité ?
Alors, l'économie de typographe éditeur, c'est... Alors, comment vous dire ça avec des mots qui ne seront pas trop assassins disons que, pratiquer la typographie au plomb, c'est avant tout pratiquer presque un sacerdoce. Mm-hmm. C'est-à-dire, il faut entrer dans ce métier-là en étant persuadé qu'on ne va pas bien gagner sa vie, mais qu'on a envie réellement de faire ça. Alors, les raisons peuvent être multiples pour apprendre de tels métiers de nos jours. Catherine.
Oui, Christian, je voulais quand même faire la différence. Enfin, il y a dans les artisans qui sont encore des artisans qui composent au plomb, il y a ceux qui font essentiellement une activité de service, c'est-à-dire que auxquels on commande des cartes de visite, des choses précises. Et puis, il y a les créateurs, et je considère que Christian est un créateur, un éditeur-créateur, c'est-à-dire que c'est un artiste du livre, et comme il a l'habitude de le dire, les caractères, le plomb, pour lui, c'est comme... sa palette et ses pinceaux, quoi. Hein. Oui, c'est-à-dire que c'est un outil qui lui sert à fabriquer des livres, alors qui ne sont jamais les mêmes, c'est-à-dire suivant le texte, suivant l'ambiance littéraire, l'illustration, il va choisir une forme différente, des papiers différents, des couleurs différentes, une typographie différente. Donc, ce sont des tirages limités. Avec chaque livre est différent.
Et vous faites de la gravure aussi.
Mais ça m'arrive aussi. D'accord. Oui, je grave aussi. Oui.
Alors donc là, il faut le comprendre comme un travail d'artiste, hein, qui la quantité de tirage étant assez réduite. Bien sûr, les prix ne sont pas ceux des livres qu'on trouve en librairie courante, mais c'est un petit objet d'art qu'on acquiert.
Oui, bien sûr, hein, c'est un événement.
C'est un événement. Chaque livre est un événement. Voilà.
Enfin, je connais un peu ce système-là dans la littérature en poésie, qui est pareil, le modèle économique, il est voisin du zéro.
Alors, en ce qui concerne gagner sa vie, On la gagne un peu, on n'est pas richissime, on ne roule pas sur l'or, c'est un choix d'une expression, d'un métier, qui ne choisit pas forcément la fortune. Mmh. Et puis voilà, on a peut-être des vies modestes, mais on a des vies heureuses parce qu'on fait ce qu'on aime.
Oui, ça c'est fondamental.
Et on produit de belles choses qui font plaisir aux autres.
Alors, si je peux me permettre d'intervenir, Catherine Chauvel, ici présente, a eu une idée de transmission des savoirs que j'aimerais qu'elle développe. Excusez-moi, j'ai pris votre place.
Non, je vous en prie, c'est très bien.
Oui, alors
faire des livres au plomb, moi.
Vous êtes le bienvenu dans mon atelier.
Oui. Oui, alors l'idée, alors, c'est quoi, l'idée, cette idée Christian et moi, on a de très nombreuses années d'activité. Ça fait plus de 40 ans chacun individuellement qu'on pratique nos métiers, nos voilà, et on a acquis beaucoup de matériel. Ce matériel, il se trouve dans deux endroits, un dans la Marne et puis l'autre à Paris. Évidemment, on n'est pas éternel, mais ce que l'on souhaite avant tout, c'est que toutes ces choses restent ensemble, ne soient pas dispersées. Parce qu'il y a des drames qui se passent en typo, c'est-à-dire qu'il y a des machines et des caractères qui sont mis à la benne, enfin qui sont envoyés chez. Et ça, c'est, ce sont comme ce sont des machines merveilleuses, vraiment très très belles, qui sont et qui n'ont qui ne nécessitent pas un grand équipement électrique. La typo telle que pratique Christian, il a pratiquement pas besoin d'électricité pour le faire. Donc il y a une espèce
écolo finalement.
Il y a une liberté, il y a une liberté au niveau de la machine comme la comme le relieur.
Et c'est des machines qui viennent d'où, qui datent de quoi,
comment ça se passe, la plus vieille machine de mon atelier, Catherine parlera de la plus vieille de son atelier, mais elle date de 1870. C'est une petite machine typographique à pédales. Je ne sais pas si dans vos ancêtres il y avait des dames qui pratiquaient la couture avec des machines à pédales. Eh bien, c'est exactement le même principe. La seule différence, c'est qu'il n'y a pas une aiguille pour coudre avec du fil, mais il y a un mouvement qui permet aux feuilles de papier de venir s'ancrer grâce au moteur qu'est le typographe placé devant la machine.
Et est-ce qu'elle casse ces machines? Est-ce qu'il y a des remplacements possibles?
Alors, si elles sont mal, si lors de déménagement, par exemple, elles sont mal
manipulées,
elles peuvent être cassées. Alors, bien sûr, il y a malheureusement de moins en moins de personnes qui soient compétentes pour les réparer, surtout des machines typo, mais ce sont des machines extrêmement précises, très, très... robustes.
Elles sont robustes. Oui, parce que l'obsolescence programmée n'était pas encore au programme à l'époque où on les a fabriquées. Et donc, ces machines étaient prévues pour durer. Elles sont faites pour les plus vieilles, elles sont faites en fonte, en fer. Leur seul ennemi, c'est la rouille.
C'est la rouille. Et votre idée, donc, de transmission.
Oui, oui. Donc j'en étais à cet ensemble de matériel, de fournitures, de énormément de choses que nous avons, non pas accumulées, parce que ça sert, mais qui sont à notre service. On voudrait les voir réunis, utilisés par d'autres que nous lorsque on ne sera plus nous-mêmes capables ou de ce monde pour le faire. Et donc j'ai imaginé que quelque part en France, soit un mécène, soit des communautés locales seraient intéressés par une activité qui est une activité culturelle, donc de création de livres, autour du livre, bien sûr, création, pas uniquement une approche superficielle, mais vraiment continuer à faire quelque chose de vraiment bien construit. Donc un lieu qui serait mis à notre disposition, où le matériel, tout le matériel serait réuni, et qui resterait à la communauté, lorsque nous aurions terminé notre
parcours sur Terre.
Plus largement, on pourrait imaginer, je sais que ça existe plus ou moins au Japon, un espèce de conservatoire des métiers d'art manuels et anciens et vivants.
Oui, alors en deux mots, l'idée de Catherine, c'est de créer un atelier école. Dans un premier temps, les formateurs seraient Catherine, moi et des amis professionnels de nos âges, de métiers différents.
Dans des techniques complémentaires.
Avec des techniques complémentaires. Et puis dans un second temps, parce qu'il paraît, je sais pas, on m'a dit ça il n'y a pas si longtemps que ça, mais il paraît que je ne suis pas éternel. Et donc après notre disparition, que les gens que nous aurions formés pourraient prendre la suite.
Vous écoutez Allegre FM 93.1.
C'est-à-dire qu'en fait, ce matériel serait vraiment donné à la communauté. Il sera conservé et il sera utilisé. Ce ne sera pas un musée, ouais. Ce sera un atelier. Ouais.
J'ai cru dire que vous avez deux enfants, deux filles. Est-ce qu'ils s'intéressent à la chose?
Non. Pas vraiment.
Non, non. Alors, c'est d'ailleurs la raison majeure pour laquelle on imagine ça. Mm. Parce que comme elles ne peuvent pas, comme elles ne pourront pas prendre en charge tout ça et que ça les dépasse largement, c'est pas. Il faut que ce soit nous qui préparions ça.
Oui, vous avez raison, voilà. c'est une noble attitude, parce que quelque part, vous aviez dit, Christian, je crois, vous avez dit que la typographie au plomb est un métier moribond, vous avez dit, et même
oui,
écrit.
Oui, cela dit, nous faisons à Paris essentiellement... Des portes ouvertes de temps en temps, notamment pour les journées des métiers d'art. Et assez souvent, nous avons des visiteurs qui disent « Ah, mais moi, je travaille dans le graphisme. J'en ai marre d'être derrière un écran. Mais quel métier merveilleux vous avez !» Et y a plein de gens qui se disent qu'ils auraient peut-être intérêt à réapprendre des techniques anciennes qui ont été méprisées.
Mais c'est ce que beaucoup de gens se sont dit aussi à l'époque du Covid, je crois.
Oui, tout à fait. Tout à
trop
fait.
Trop loin du monde.
Tout à fait.
Alors, avec Christian Loucou et Catherine Chauvel, pour l'un typographe au plomb et l'autre relieur, nous parlions de la transmission, de ces très beaux métiers d'art qui sont des métiers techniques aussi, qu'il faut savoir faire. Il y a des vrais savoir-faire, non seulement de l'esprit, mais de la main, et des machines aussi, que les connaître, les réparer, les bichonner, les faire tourner. Et vous évoquiez... Catherine, tout à l'heure, la possibilité d'essayer de créer un lieu qui accueillerait l'ensemble de vos machines à l'un et à l'autre, et qui vous donneriez vos machines en quelque sorte, et pour transmettre le savoir à des nouvelles personnes, à des plus jeunes que vous. Mais avant de revenir sur ce sujet, sur les ateliers que vous envisagez de faire, je crois, je voudrais qu'on parle un tout petit peu papier, parce que qui dit livre dit papier, qui dit... encre dit papier qui rentre dans l'encre qui rentre dans le papier. Comment est-ce que vous les papiers sont de plus en plus chers d'ailleurs. Comment vous faites avec les papiers et Quelle est votre politique à l'un et à l'autre, d'ailleurs ?
J'ai à la fois de la chance et pas de la chance d'avoir l'âge que j'ai. Alors, du côté chance, j'ai acheté du papier il y a très longtemps et il m'en reste encore. Et des papiers qui ne sont plus fabriqués de nos jours. Là où c'est pas de chance, c'est que j'en ai accumulé trop et il me faudrait 3 vies pour utiliser tout le papier que je possède. Il fut un moment où il y a eu un gros regroupement des différents papetiers français et pas seulement français pour faire une espèce de gros conglomérat pour lutter contre les multinationales papetières. Donc ce conglomérat s'est appelé Antalis, qui a regroupé un certain nombre de sociétés de distribution et de fabrication de papier en France et aussi en Angleterre. Et lors de ce regroupement, j'ai eu la chance de bénéficier de prix tout à fait... parce que des entrepôts complets devaient être vidés. Voilà.
Mais parce qu'il n'y a pas que la jouissance de la lettre, il y a aussi la jouissance du papier.
Bien sûr,
là-dessus,
bien sûr.
Le papier, c'est très physique. Ça,
c'est sensuel, le papier. Voilà.
Ce que je disais tout à l'heure, c'est que dans la diversité des livres produits par Christian, le choix du papier est important. Le choix de son grammage, son épaisseur, sa couleur, sa texture. Il y a une très très grande variété de papier. Et suivant le format du livre et la façon dont Christian souhaite qu'il soit lu, il va choisir un papier ou un autre, d'où l'importance de...
Mais parce que c'est très stupéfiant quand on est soi-même écrivain, ce qui est mon cas. Mm-hmm. Le premier livre de poésie que j'ai fait, je l'ai publié donc l'imprimerie de Monsieur Huin. Et il m'avait posé la question du papier. Il m'a dit, quel papier voulez-vous ? Je n'avais jamais réfléchi à ça en tant qu'écrivain.
Oui,
quel
sûr,
papier
oui.
je veux ? Je lui ai dit, mais quel papier ? Un papier qui marche, quoi. Et il m'a fait... Et surtout, ce que j'ai vu, c'est quand il a eu fini le livre en question, je me souviens très bien, il m'a fait le livre, il a tiré, je ne sais pas combien d'exemplaires, et il y avait un paquet brun, il y avait mon livre en paquet, parce que c'est tous les plombs qu'il avait fondus, il les avait évidemment gardés pour le retirer éventuellement, donc il y avait une étagère avec le livre, mais sous forme de cube,
entouré
de papier. C'est très émouvant de voir, il y a une espèce de fascination de ça,
Vous, je trouve. Vous me faites penser à mes tout débuts de tout petit éditeur, quand j'ai eu acheté ma première presse. Les premiers livres que j'ai imprimés avec le pauvre matériel que j'avais réussi à acheter à cette époque-là. Et j'imprimais, je pliais mes feuilles de papier, je les assemblais, je les cousais. Et quand le tirage était terminé, je les mettais bien alignés les uns à côté des autres sur la table. Et je passais une demi-heure à ne rien faire d'autre que de regarder mes bouquins. Alors je ne fais plus ça maintenant, mais c'est le fait d'avoir créé un livre ou d'avoir vu naître un livre, ça peut relever du phénomène de la fascination.
Mais vous parliez tout à l'heure de la composition, c'est-à-dire Christian
planches composées,
pas les papiers.
Non, la composition.
Ah, la composition.
Le plomb. Mais aussi le plomb.
Il
avait rassemblé toutes ces
pages.
C'était
impressionnant d'avoir ce côté physique, quoi, épais.
Bien sûr.
Alors,
et le plomb est redistribué après.
Oui, absolument.
Et là, ça veut dire que c'est fini.
Alors, pour terminer, dites-nous un mot sur ces ateliers éventuellement que vous voulez faire. Espèce de festival aussi, si j'ai bien compris.
Alors non, c'est pas une festival. C'est-à-dire que on peut attendre que les gens viennent à nous, mais on peut aussi aller vers eux. Et il y a une activité qui nous a réunis, Christian et moi, il y a de très très nombreuses années, il y a plus de une trentaine d'années.
On n'était pas mariés et femmes à cette époque.
Un ami avait constitué un groupe, un ami poète avait constitué un groupe composé donc de poètes, de typographes, de fabricants de papier, de graveurs pour l'illustration et de relieurs pour fabriquer la totalité d'un livre avec des enfants.
Très bien.
C'est une activité qui prenait une petite semaine en relation avec les écoles, les médiathèques, les mairies. Et ça a toujours été un enthousiasme. Et alors, c'est très, très pédagogique pour les enfants parce qu'ils écrivent, ils composent, ils impriment, ils voient toutes les phases. Et avec Christian, on voudrait refaire ça. C'est-à-dire qu'on a des petites machines. Christian a construit lui-même aussi des petites machines, tout en format réduit, que l'on met dans la voiture. Et on fait une grande prospection en France pour entrer en contact avec toutes ces structures qui pourraient nous accueillir et aller faire des semaines comme ça de fabrication de livres avec les enfants.
Voilà. Bah écoutez, c'est une très belle idée. Merci beaucoup Catherine Chauvel et merci beaucoup Christian Loucou d'être venu nous parler de vos métiers de typographe d'art d'un et de relieur pour l'autre. Malheureusement, le temps de l'émission s'achève, donc Chute Libre était très heureux de vous recevoir et merci beaucoup.
Merci de nous avoir reçus.
C'était Chute Libre, entretien de Paul de Brancion avec des écrivains de poésie. Vous écoutez Aligre FM 93.1.